voilà, donc bonjour Joël Marteau.
Bonjour.
Et bienvenue à Fréquence Mistral. Vous étiez déjà venu nous voir pour nous parler de votre métier passionnant d'accompagnateur en montagne avec votre fils. Et là, donc, c'est pour une autre partie, enfin un autre sujet, bien que ça ait un petit peu de rapport, parce que c'est en montagne.
Il y a un lien, effectivement. Entre les épaves d'avion que l'on trouve en montagne et le métier d'accompagnateur.
Alors on va voir ensemble d'où vous vient cet intérêt pour déjà les avions, puisqu'on viendra sur la partie aussi qui a suscité beaucoup d'intérêt pour vous, puisque les épaves d'avion c'est un peu une suite logique, hein, puisque vous avez préparé un livre, on en verra aussi au long de cette émission. Pourquoi cet intérêt déjà pour les avions ?
Alors, ça remonte à mon grand-père maternel qui a participé à la guerre de 14-18 dans ce qui s'appelait pas encore à l'époque l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'il a été versé dans une unité qui se rapprochait un petit peu de la cavalerie, mais on leur a montré des avions. Ils ont appris à les piloter. Alors, mon grand-père n'était pas pilote. Il était instrumentiste de bord, c'est-à-dire que de formation, il était horloger bijoutier et il travaillait sur les instruments de précision. Or, les avions sur lesquels il a travaillé étaient absolument modernes puisqu'il y avait à bord un altimètre. C'était énorme. Mmh. Un altimètre, un badin pour la vitesse. Alors au début, c'était une lamelle de métal qui se tordait avec la vitesse du vent et qui donnait la vitesse approximative de l'avion. Donc il y avait un compas, une boussole, quoi, un compas et un altimètre. Et avec ça, les gars, il fallait qu'ils se débrouillent. Il n'y avait pas encore l'horizon artificiel que l'on voit maintenant sur les avions. Ça, c'était un simple fil tendu entre les deux haubans, puisque les ailes, c'était des biplans. Il y avait un fil tendu à hauteur des yeux, et si ça correspondait à la ligne d'horizon, ils étaient bien à plat, quoi. Voilà. Et donc, mon grand-père montait à bord des avions. En général, il montait devant, puisque l'avion se pilote par la place arrière. Sur les biplans, comme le Nieuport, quand il y avait deux places, c'était le pilote, en général, était à l'arrière. Et donc mon grand-père a monté et il étalonnait les appareils à partir d'un altimètre étalon qu'il avait autour du cou et qu'il étalonnait à la base. Et donc il a été affecté à la base de Salonique en Grèce et il a fait la bataille de Salonique qui a été absolument épouvantable, puisque ça a été un massacre. La bataille, il a raconté 20 000 fois, mais ce qu'il racontait surtout, c'est quand il a retrouvé dans des meetings aériens, dans les années 20, ses compagnons d'armes, qui eux volaient, et parmi eux, un monsieur qui est devenu très célèbre après, puisqu'il est rentré dans l'aéropostale, c'était monsieur Coste, de Coste et Bellonte. Coste et Bellonte, qui ont été les premiers à faire la traversée de l'Atlantique jusqu'en Argentine et pour transporter du courrier. Et donc, Coste était un des pilotes les plus redoutés de mon grand-père, puisqu'à chaque fois qu'il avait fini d'étalonner ses instruments, Coste lui disait « Joseph, tu as terminé ?»« Joseph, tu as terminé ?»« Oui, j'ai terminé. »« Bon, alors maintenant, on va s'amuser. » Et lui faisait faire des loopings, il volait sur le dos et tout. Et mon grand-père était terrorisé, quoi.
D'accord.
Voilà, c'est toutes ces histoires-là qui font qu'un petit garçon, parce que les petits garçons, ils aiment bien les avions. Alors, ceci dit, les filles aussi. Hein, on va arrêter avec ce genre de... Il y a une histoire sur la théorie du genre, là, en ce moment, avec le pape. Là, hein. on va arrêter avec ça directement. Filles ou garçons, quand on écoute son grand-père raconter des histoires comme ça, ça vous forme un peu les idées, quoi. Mmh.
Et vous, petit garçon, vous aviez déjà l'envie de faire des maquettes d'avions ou il y avait ces jeux-là déjà de construction ou...
Oui. Il y avait déjà les maquettes LR, hein, on peut citer la marque, je crois qu'elle existe toujours, qui était en plastique, pas toujours bien fini, mais bon, on se débrouillait. Avec la colle épouvantable qui collait plus aux doigts qu'au plastique. Oui, les maquettes. Et puis sinon, les avions, on les fabriquait nous-mêmes avec des morceaux de cagette, parce que ça volait bien.
Ah oui.
C'est un petit peu comme le basalte, quoi. Là, c'était du peuplier, mais ça volait bien. Et puis, les amis à mes parents qui venaient le soir, on avait bien la télévision, mais il n'y avait qu'une chaîne. Et puis le soir, il y avait des pseudo-veillées comme ça, où ils racontaient le crash d'avion du Cheval Blanc, l'avion, le bombardier qui est au Ciron, etc. Ce dont on va parler là. Mmh. Et alors moi, j'écoutais ça. Et puis après, j'allais raconter ça à mes copains. Et puis mes copains des Arches, là, qui peut-être écoutent là, actuellement, hein, Jean-Claude, Gérard, il y a deux Jean-Claude, hein, voilà. Et ces copains avaient tous dans leur famille quelqu'un qui avait été, spécialement Jean-Claude, je ne sais pas s'il m'entend, son papa était mitrailleur dans un avion, il était basé en Afrique du Nord, il a fait toute la Seconde Guerre mondiale mitrailleur dans un avion, quoi. Mmh. Et donc, il nous racontait lui aussi ces histoires-là. Jean-Claude, c'était son oncle qui était pilote, hein, je crois, dans les débuts de l'aviation, quoi. Donc, tous ces gens-là nous ont bourré la tête avec des histoires. Et je me souviens, à l'époque, notre jour de liberté à l'école, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Et on passait des jeudis après-midi entiers à courir dans la montagne, on n'avait pas 10 ans, hein, à courir dans la montagne vers le Ciron pour aller chercher ce fameux bombardier que j'ai retrouvé 25 ans plus tard. Parce que nous, on ne l'avait jamais trouvé, nous.
Ah oui, donc c'était déjà, en tout cas, l'envie était là avec histoires. Et c'est un bombardier qui était au Ciron, qui était tombé en quelle année alors ?
Alors celui-là, il est tombé en 1945, en février 1945. Mmh. Et c'est une histoire qui finit bien, hein, qui finit très bien. Le pilote, je crois qu'il est décédé en 2003 ou 2004. Donc ça va, quoi. Il s'en est bien tiré. C'est une histoire assez amusante, hein, d'ailleurs, à raconter. Et l'épave existe toujours. J'y suis monté avec un groupe. Justement, c'est une curiosité à voir au bord du chemin. Enfin, il est au bord du chemin, il faut aller le chercher, l'avion, quand même. Hein. Et il est très éparpillé. Et les morceaux ne ressemblent plus tout à fait à un avion, quoi. Il faut savoir ce que c'est. D'ailleurs, il a fallu que je fasse des photos de certaines parties de la carlingue pour arriver à identifier l'avion. Et c'est après, en arrivant sur un rapport de l'armée de l'air, que j'ai réussi à identifier de quel avion il s'agit.
Donc là, on est parti. Donc, pourquoi cet intérêt pour les avions avant les épaves ? Donc, une démarche qui vous est venue avec les belles histoires, les histoires passionnantes du grand-père maternel. Et ensuite, il y a eu donc un travail sur les recherches.
Voilà,
il y a
eu un déclencheur. Il y a eu un déclencheur. C'est lorsque j'ai passé mon brevet d'état d'accompagnateur en montagne.
C'est-à-dire il y a quelques années.
C'était en 1995.
D'accord.
Mmh. En 1995 et 96, donc j'ai employé un terme que je déteste. Il dit à l'époque.
Eh oui.
Ouh là là. À l'époque, parce que le brevet d'état est devenu maintenant un diplôme d'état et c'est plus tout à fait le même cursus. Mais à l'époque, nous devions réaliser un mémoire sur notre stage en situation, c'est-à-dire la période, une période où on est aspirant accompagnateur, comme on est aspirant guide. Bon, on doit réaliser un mémoire. Et à l'époque, on devait réaliser dans ce mémoire un dossier où on devait développer un aspect particulier de ce qu'on pouvait trouver en montagne. Alors, il y en a qui font les plantes des milieux humides, d'autres qui font les rapaces, patati patata. Moi, j'avais dit, je vais faire un truc sur les épaves d'avion en montagne. Comment elles sont arrivées là, quelle est l'histoire qu'il y a derrière, quelle est surtout l'histoire humaine, parce que la technicité, la densité du métal, savoir de quelle époque ça date, ça, bon, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est comment c'est arrivé là. Et ça, ça fait partie d'une histoire qui est avant tout humaine. Et ce sont des choses que l'on raconte en tant qu'accompagnateur en montagne, parce qu'on ne va pas d'un point A à un point B sans expliquer ce qu'on y trouve. Et il y a toujours une histoire à raconter. Bon, ça, c'est un peu une autre passion. Je raconte des histoires. Bon. Et je n'ai pas fait mon mémoire là-dessus. Mais néanmoins, j'avais déjà préparé quelque chose. Et de là est venue l'idée de dire, mais bon, de toute façon, quand tu vas travailler comme accompagnateur montagne, tu vas utiliser ça. Tu vas utiliser cette particularité du terrain. Mais pour ça, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut s'en tenir aux faits, même si les faits, on les enjolive un peu pour que ce soit écoutable. Parce que si c'est trop technique, c'est ronronnant, ça n'intéresse personne. Il faut donner du relief, il faut donner du texte, il faut... Voilà. Et à partir de là, je me suis mis à me documenter, à rechercher. Et après, je me suis rapproché d'une association dont on parlera tout à l'heure, là, qui est vraiment très, très sympathique.
Alors, je vous propose de faire une pause musicale avec une...
Voilà. Emblématique des épaves d'avion et de la recherche d'épaves d'avion. C'est un film dont le sujet est justement un crash d'avion. C'est Malabar Princesse, avec Jacques Villeret, Claude Brasseur. J'en oublie, la jeune femme qui joue l'institutrice, là, qui est absolument formidable. J'ai pas son nom, là. C'est l'histoire d'une épave d'avion et du fabuleux trésor que l'on cherche dans chaque épave d'avion, mais qui n'existe pas forcément. Ce film date, du début des années 2000. Il est absolument magnifique. Moi, à chaque fois, je le vois, j'ai les larmes aux yeux. D'abord parce que ça se passe dans le massif du Mont Blanc et j'y suis particulièrement attaché. Et en plus... on donne un aspect, un relief particulier à cette histoire, parce que c'est vraiment humain. Voilà, il y a plein d'humanité là-dedans. Et puis, bon, les histoires de trésors, tout ça, ça passe complètement à la trappe après. Il faut savoir que sur le Malabar Princesse, dans le film, on parle d'un fameux trésor qu'ils auraient trouvé, patati patata. Effectivement, un des guides qui travaille sur le glacier des Bossons a trouvé, je crois que c'est l'année dernière, une sacoche qui provient du Malabar Princesse, parce que cet avion a réellement existé, et dans cette sacoche, il y avait des bijoux de grande valeur. Et ces bijoux ont été remis aux descendants des victimes.
Ça alors ?
Voilà. Donc le film avait anticipé ce qui est arrivé il y a 2-3 ans, je crois que c'est l'année dernière. Voilà, Malabar Princesse.
On écoute tout de suite Joël Marteau et on se retrouve juste après.
Thank you.
Malabar Princesse.
Donc, ouais, avec des images superbes de survol des aiguilles de Chamonix et puis des glaciers de Bionacé, Bosson. Waouh. À chaque fois, pas les larmes aux yeux, mais presque, j'ai vécu des choses là-bas magnifiques. Et, ouais.
Donc, on se retrouve, donc, Joël Marteau, accompagnateur en montagne, pour parler de votre passion pour les avions. On l'a vu dans la première partie d'émission, qui vous est venue par votre grand-père maternel, lui-même qui a été dans l'aviation pendant la guerre de 14-18. Donc, vous avez cette passion pour les avions et vous avez commencé à faire des recherches aux archives. Et il y a bien sûr un travail sur le terrain. Et qui a demandé cette passion pour la recherche. Comment ça se passe? Vous allez vous balader en montagne avec ce but de rechercher. Et d'abord, est-ce que c'est sur les épaves d'avion qu'on trouve dans le département ou est-ce que c'est plus général que ça?
Alors, c'est d'abord, ce sont celles que l'on trouve dans le pays d'Ignoy. C'est-à-dire que là, ça va pas très loin, hein, c'est aux alentours de Digne. Mmh. Alors, si justement j'ai préparé un ouvrage là-dessus, c'est parce qu'il y a une particularité à Digne, c'est que l'aérologie est très particulière, hein, les parapentistes ne vont pas me contredire, on voit énormément de planeurs qui passent, hein, il y a une aérologie qui est très particulière, une aérologie de montagne, et on est dans un couloir aérien qui a toujours plus ou moins existé. On est sur les voies aériennes qui mènent à Cannes, à Nice, à Marseille, Grenoble, Turin, Genève. On est au milieu de tout ça. Et donc, ça, plus beaucoup de facteurs, font qu'il y a beaucoup d'avions dans le secteur. On est aussi dans un département qui est très peu habité. Et qui a toujours été très peu habité, hein, parce qu'il a été largement touché par l'exode rural. Et donc, les survols aériens par l'armée se font peut-être plus facilement au-dessus des Basses Alpes pour l'époque, ou des Alpes d'Haute-Provence, qu'au-dessus de Marseille. Hein, voilà, on comprend facilement pourquoi.
Donc, vous parlez de 4 ou 5 épaves dans le pays d'Ignoy. Est-ce que c'est beaucoup et c'est sur combien d'années?
Alors, ça remonte pour la plus ancienne à 1948. Donc, ça fait une grosse soixantaine d'années. Pour les plus récentes, il y a quelque chose dont on va parler tout à l'heure, mais je le garde pour la fin. Mais sinon, c'est tout autour de Digne. Alors, on peut en citer quelques-unes.
Oui.
Hein. Donc, il y a le fameux bombardier du Ciron. Hein, c'était un Thunderbolt P-47, non pas un Curtiss, hein, comme j'ai trouvé sur certains rapports, avec le maître Léon Marpeau à bord. C'est des noms. Alors, d'habitude, on ne donne pas les noms. Mais là, les noms ont tous été publiés par voie de presse. Sont dans des rapports qui ont été mis à disposition du public, donc c'est pour ça que je me permets de citer les noms. Il y a la forteresse volante, le B-17 du Cheval Blanc. Alors ça, c'était un double crash aérien, puisqu'il y a un Dakota C-47 qui s'était écrasé. Donc là, je me propose de la raconter un peu en détail vers la fin de l'entretien, et une forteresse volante 2 jours après. Voilà.
Qu'est-ce qu'on appelle une forteresse volante?
Alors c'était un quadrimoteur fabriqué par Boeing, qu'on appelle le B-17, qui a été construit pour bombarder et détruire les usines de la Ruhr en Allemagne. Il partait d'Angleterre et il partait pilonné de bombes. Voilà. Et pour se défendre, ces avions étaient équipés de mitrailleuses, avec 2 mitrailleurs, il y avait jusqu'à 6 personnes à bord, 2 mitrailleuses devant, derrière, dessus, dessous, et tout. Il y a un film qui se rapporte à ça s'appelle Memphis Belle. C'est la dernière mission du bombardier B-17 Memphis Belle, la dernière mission de son équipage. Le Memphis Belle existe toujours, il est dans un musée aux États-Unis. Et voilà, ce sont des avions qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus grand-chose à bombarder, Dieu merci, ont été voués au secours en mer. Parce que c'était des avions extrêmement puissants qui pouvaient transporter de lourdes charges. Et sous le ventre de l'avion, à l'endroit où il y avait la soute à bombe, ils accrochaient une chaloupe en bois et en aluminium, remplie de matériel de survie. Et quand ils voyaient les naufragés, ils volaient à basse altitude. Alors à basse altitude, ils ne savaient pas trop faire, déjà, sur la mer. Et ils larguaient la chaloupe à proximité des naufragés qui descendaient avec deux parachutes et qui pouvaient se venir au besoin. Voilà. Après, il n'y avait plus qu'à localiser la zone de l'épave. Voilà. Et donc, ce B-17, voilà, il y en a un qui s'est écrasé au Cheval Blanc. Ensuite, on a les Mirage 3. Alors là, les Dinois s'en souviennent encore, hein, puisque c'était le 3 mars 1971. Deux Mirage 3 se sont percutés dans le ciel de Digne. Alors ça a causé beaucoup d'émoi parce que à quelques centaines de mètres près, les morceaux tombaient dans Digne.
Ah oui.
Ah oui, oui, ils auraient pu tomber sur le boulevard Gassendi. Voilà. C'est non, mais c'est pas anodin, quoi. C'est arrivé, quoi. Il y a aussi un super mystère B2. Alors, c'est un des premiers avions à réaction que fabriquait Dassault, qu'on appelait le faiseur de veuve, parce qu'il était très instable. C'était des avions avec les ailes en flèche. Le Mirage, le Rafale ont les ailes en delta. Celui-là, il avait les ailes en flèche. Voilà. Et c'était un avion assez instable. Et bon, il y a un jeune pilote qui s'est tué à côté de Osé. Donc là, j'ai recueilli quelques témoignages.
C'était quand ?
Ça, c'était en 1964. Et voilà, donc là, on en a quand même, trois ou quatre. Il y en a un aussi, un petit Jodel, qui s'est écrasé sur la montagne de Boule, au-dessus de Tercier, en 1964 aussi. 66, pardon. En 66, je l'ai perdu. J'ai les notes juste devant moi. Mmh. Voilà, c'est en 64. C'était le 16 août 1964. Ça a été la première grosse intervention du tout nouveau centre de secours de la Javie. Mmh. Et lors de l'inauguration du dernier centre de secours en 2010, j'avais fait un petit reportage diaporama là-dessus, où on voyait quelques anciens sur l'intervention de la tragédie aérienne de Faillefeu. C'est comme ça que ça avait été titré sur le journal Le Provençal à l'époque.
Faillefeu ?
Faillefeu.
Ça s'écrit ?
F-A-I-2-L-E-F-E-U. C'est une faillée, c'est-à-dire un bois de hêtre dans lequel probablement on tirait de quoi faire le feu, ça servait de bois de chauffage.
Donc tous ces crashs aériens, enfin, vous les avez répertoriés dans votre livre ?
Oui, pour la plupart. Alors le début de la recherche, c'est d'abord l'histoire que... L'histoire qui est colportée, qu'on va entendre. À partir de là, il y a de la recherche sur le terrain. Tiens, on va jeter un coup d'œil, voir si on trouve quelque chose. Alors, on trouve un petit bout de métal, un petit bout d'aluminium, des rivets, une pièce mécanique, un flexible, un connecteur, un interrupteur. Bon. On trouve des petites choses comme ça. Et puis, après, on va chercher aux archives aussi. Et puis, donc dans les archives, il y a tout un dossier qui est préparé là-dessus. Je dois saluer quand même le personnel des archives départementales à Digne-la qui chaque fois que j'y vais se mettent en quatre pour trouver un nouveau truc, un nouvel article. Attends, bouge pas, on doit avoir quelque chose par là.
Et comment ça se passe pour ces recherches? Il n'y a pas de loi qui interdit de récupérer les pièces? Alors, comment ça se passe?
Justement, on fait allusion à ce qui s'est passé dernièrement à Beaujeu, hein, qui est ma commune, où une personne avait trouvé des pièces d'origine médiévale. Et ils avaient un peu gardé pour lui, quoi. Voilà. Là, il n'y a pas de restriction, si ce n'est morale. Une épave, c'est censé être une sépulture, déjà. Mmh. Faire du pillage pour aller ramener un morceau de métal, si on ne se sert pas du métal, je ne vois pas l'intérêt. Hein. Et ça reste quand même un endroit où il y a un drame qui s'est produit. Alors, pas toujours, hein, puisque pour le bombardier du Ciron, ça s'est très bien terminé, mais... Par exemple, pour le cheval blanc, là, il y a une épave qui n'a pas été démontée, qui n'a pas été pillée. C'est celle du Dakota C-47. Il transportait des femmes et des enfants, des officiers américains.
Voilà. Donc ça, c'était en quelle année, le cheval
c'était
blanc?
C'était en 1948.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Donc on verra un petit peu le détail tout à l'heure. Hein, mais voilà. Et les gens n'ont pas touché à cette épave. Bon, il y a bien un moteur qui a disparu, mais on sait où il est. Voilà, il est dans un musée. Hein. Et dans un musée à Castellane, donc voilà. Mais ça n'a pas été bien loin, mais sinon, ils n'ont pas touché. Voilà. Et...
On va faire une pause musicale, hein, et puis après, on reviendra dans le détail donc, de ces trouvailles d'épaves, et puis on parlera de l'association... l'association...
Arsa.
Association rhodanienne de souvenirs aériens.
Voilà. Hein,
ce sera juste après cette pause musicale. Oui, vous restez à l'écoute, bien sûr, des fabuleuses histoires de Joël Marteau. On écoute Le Dernier Trappeur. Enfin, c'est la musique de ce film.
Thank you.
Ah oui, hein. Même dans le dernier Trappeur, il y a un hydravion. Il y a des images d'hydravion en Colombie-Britannique. Là, c'est extraordinaire.
Joël Marteau, on va venir donc à cette association, association rhodanienne de souvenirs aériens. Quelle est cette association? Depuis quand elle existe? Et quel est le rapport avec Joël Marteau?
Alors le rapport, on revient à cette histoire de double crash au Cheval Blanc. En 1948, il y a un jeune de la Javie qui s'appelle André Besson, qui a 16 ans, qui est passionné d'aviation et qui va se rendre sur la zone de crash dans le printemps qui suit, une fois que la neige a fondu. Parce que le crash a eu lieu au mois de janvier 1948. Lui, il va y aller au mois de juin et puis il va se rendre sur l'épave. J'ai quelques photos de lui d'ailleurs. Voilà. Et puis ce jeune de 16 ans, il va devenir ingénieur en aéronautique, il va rentrer dans l'armée de l'air, il va devenir pilote, mécanicien, pilote. Et puis il va faire une carrière dans l'armée de l'air, je crois, d'après ce que j'ai compris, en Indochine. C'était l'époque, hein. Voilà. Et puis ensuite il va finir sa carrière chez Air Inter, qui a disparu maintenant. Ce monsieur vit à Bron, à côté de Lyon, et vient régulièrement à la Javie. Et donc il a publié...
Il n'est plus très jeune, calcul.
Hein. Il n'est plus très jeune, mais il connaît encore sa voiture.
Oui.
Et c'était un monsieur qui est adorable.
Comment il s'appelle ?
André Besson.
D'accord.
André Besson, originaire de la Javie. Et donc, je me mets en rapport avec lui, parce que j'ai retrouvé des photos, des textes qu'il a écrits, parce qu'il écrit très bien en plus. Et il a déjà écrit sur le crash du Cheval Blanc. Et je me suis mis en rapport avec lui, et c'était pas très compliqué, j'habite à 4 km. Je le retrouve. Et là, on attaque à discuter et on commence à croiser nos trouvailles. Moi, j'avais trouvé des choses, j'étais un peu ses jambes en montagne, quoi. Et puis, lui, il m'a fourni nombre de documents. Alors, l'ARSA, ce sont des anciens pilotes de l'armée de l'air qui ont tous largement volé. Et qui, une fois à la retraite, se sont attachés à retrouver ce qui s'est passé après le débarquement de Provence. C'est-à-dire que les Alliés ayant débarqué en Provence, les troupes allemandes, pour contre-attaquer, étaient acheminées par le couloir rhodanien par voie ferrée. Et donc, à charge pour l'aviation alliée, de mitrailler et bombarder et bloquer ces fameux trains venant apportant l'armée allemande face aux Alliés. Et parmi ces pilotes qui étaient chargés de bombarder ces trains, eh bien, il y avait des tout jeunes pilotes qui, là, je crois que le plus jeune qu'ils ont trouvé avait 17 ans. Malheureusement, il y avait très peu de pilotes chevronnés et beaucoup, beaucoup ont été abattus et se sont crachés. Et c'est des choses qui ont été oubliées parce que pour une escadrille, perdre 5 avions, 5 pilotes dans la même mission, dans la même journée, bah, c'était devenu tellement courant que, voilà, à un moment donné, c'est passé un petit peu dans l'oubli. Quand un agriculteur il commence à retourner dans un champ, il retourne à la terre et puis il commence à sortir des bouts de ferraille, des choses comme ça. Il dit, oh, bah oui, bon, il s'est peut-être bien passé quelque chose. Alors il va voir un peu avec la gendarmerie, avec la mairie et tout. Puis bon, on va laisser un rapport traîner dans un coin. Donc l'ARSA a récupéré un petit peu tout ça, tous ces rapports, tout ça, et arrivé à retrouver ces crashs aériens. Ils ont même retrouvé le corps d'un jeune pilote. Et c'est à l'occasion à chaque fois de faire une cérémonie pour que la famille puisse faire son deuil. Alors on parle de famille américaine là, hein. Ça va loin. Puis c'est toujours un rapport entre un drame, mais surtout le côté humain. Et le fait qu'une famille puisse faire son deuil, ça, même 60 ans après, ça a apporté énormément.
Mais c'est possible de retrouver un corps 60 ans après.
Ouais. Ah oui, de retrouver des restes humains, oui, c'est possible. Oui. C'est arrivé dans le Nord aussi, où ils ont retrouvé un avion. C'est pareil, il y a un gars qui en labourant son champ, retrouvait des bouts de ferraille qui remontaient à chaque fois. Et puis, il y a une question de densité, il y a des choses qui remontent à la surface. Des fois, c'est des pierres. Bon. Et en creusant, en cherchant, ils ont trouvé qu'effectivement il y avait un avion qui avait été abattu à cet endroit-là. On n'avait pas retrouvé forcément l'épave, le terrain avait été très bombardé. C'est dans la région de Lille. Et en fait, l'avion était rentré un peu dans la tourbe, là, cette espèce de terre grasse là. Et ils ont retrouvé effectivement les restes du pilote. Bon, avec la plaque d'identification militaire, là, ils ont réussi à retrouver.
Ah oui, forcément, avec les plaques.
Voilà. Il y avait les plaques, il avait sa sacoche identifier. Avec ses rapports, ses papiers, son ordre de mission et tout. Tout était intact, bon, sauf le corps. Mais la famille a pu faire le deuil.
Ouais. Voilà. Effectivement, c'est important.
Voilà. Et donc, l'ARSA, ce sont des gens comme ça. Alors, bon, maintenant, ce sont de vieux messieurs. Et donc, j'ai une petite anecdote à raconter que c'est absolument génial. Parce que c'est un peu surréaliste. C'est un peu... Spielberg pourrait faire un truc là-dessus. Là.
Ah, il faut l'écrire.
Ah ouais, non, mais je pourrais. Je suis chez moi. On est en 2009. On prépare justement la stèle de la forteresse volante du Cheval Blanc, qui est à Chanol. On prépare ça. Et moi, je devais recevoir... le fils du copilote du B-17 et l'amener là où son père est décédé. Le gars, il vient du Colorado quand même. Hein. Voilà. Bon, alors donc, ils viennent à la maison, donc Jean-Pierre Garnier et André Besson, les deux messieurs de l'ARSA. Et ils viennent, déjà, ils s'assurent que je parle anglais couramment, parce que le monsieur est américain, et il ne parle pas un mot de français. Bon, alors là, ils viennent à la maison, et je vois rentrer deux vieux messieurs. De personnes âgées. Alors, toujours avec cette belle prestance qu'a André Besson, avec son foulard à l'anglaise, tout, on sent qu'il y a du Grégory Peck derrière, du Rock Hudson vieillissant et tout. Il est super classe. Et bon, j'étais en travaux dans la maison et tout. Alors, on va dans un coin, il y a l'ordinateur, je leur montre les photos de ce que j'ai trouvé, tout ça, les documents que j'ai, on commence à discuter. Et je leur montre les photos de l'intérieur d'un Dakota C-47, le même qui s'est écrasé au Cheval Blanc en premier. C'est celui du Bourget, du musée de l'air et de l'espace au Bourget. Je leur montre l'intérieur. Et là, ils ont commencé à partir dans les commentaires. « Tu te rappelles, André, la manette qu'il fallait pousser ?» Et puis derrière, il y a eu les mécaniciens qui poussaient avec nous parce que les commandes, elles étaient câblées, elles étaient tellement dures, on n'arrivait pas pour décoller, il fallait aller très vite. En fait. Et d'un seul coup, j'ai vu ces deux messieurs-là. J'avais plus deux vieux... J'avais deux personnages en blouson de cuir. Ça sentait l'huile, ça sentait le kérosène. Et j'avais deux jeunes hommes qui étaient là avec quelque chose dans les yeux. Les aviateurs, qui est facilement reconnaissable, ils avaient les yeux qui pétillaient. Ils avaient 20 ans. J'avais deux types en face de moi qui avaient 20 ans. C'est extraordinaire. Et donc, ils m'ont énormément aidé dans mes démarches. Et là, je dois vraiment remercier ces deux messieurs et cette association parce que là, il y a un gros boulot derrière. Et ils ont été pas avares de documentation.
On fait encore une pause avec Ray Coder. C'est la musique du film Paris, Texas.
Je crois que c'est ça.
Dark End on the Street. Mmh. Oui.
C'est ça.
Et puis ensuite, on parlera donc du cheval blanc, c'est ça.
Mmh. D'accord.
Et voilà, on retrouve Joël Marteau pour cette émission spéciale autour de son intérêt pour les avions et les épaves d'avion, puisque un livre est en préparation et peut-être même achevé. Et Joël, vous cherchez un éditeur. Avant de parler de cet appel pour un éditeur, vous aviez envie de revenir sur le détail du crash du cheval blanc en 1948.
Oui. Oui, c'est quelque chose qui avait marqué à l'époque la région de Digne autant que le crash de l'A320 il y a 18 mois, un petit peu plus, l'a marqué actuellement. En gros, c'est Un Dakota C-47, c'est ce qu'on appelle le Skytrain, le train du ciel. C'est l'avion qui a fait le ravitaillement du blocus de Berlin à la fin dans les années 50. C'est l'avion qui est encore utilisé en Amérique du Sud et en Afrique. C'est vous dire si c'est costaud, c'est solide, ça se répare facilement. Il y a encore des pièces neuves qui circulent. C'est plus aux normes, mais bon, c'est pas grave. C'est pour des petits transports, des petits courriers. C'est un gros bimoteur qu'on peut charger comme une mule, qui décolle sur des courtes distances et qui se pose au temps. Donc cet avion est arrivé au Cheval Blanc par un parcours absolument abominable. Il transportait des femmes et des enfants d'officiers américains qui venaient rejoindre le père, le mari, dans une base aérienne à côté de Udine en Italie. Cet avion, il est parti d'Istre le 27 janvier 1948 en direction de Udine. Il devait passer par la Ciotat. À l'époque, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de GPS. Hein, le radar, c'est juste pour... c'est occasionnel, quoi. Hein, c'était pas sur tous les avions, quoi. Et pour se diriger, ils utilisaient des ondes radio. C'est-à-dire qu'il y avait un émetteur, et là c'était à Pise, un émetteur à Pise qui balançait un signal. En sortant de l'influence de Istres, en passant au-dessus de la Ciotat, il captait l'émetteur de Istres, et en suivant la côte, il arrivait à destination. Cet avion est parti assez tard, hein, j'avais noté une heure relativement tard, 12h37, d'Istres. Il est allé tourner, il a tourné tout l'après-midi sur l'Italie du Nord en cherchant vainement le signal radio de la base du relais de Pise. Il n'a jamais trouvé. Et donc les pilotes, lorsqu'ils ont voulu, ils ont dit à un moment donné, on fait demi-tour. Le navigateur, il n'avait pas de GPS avec un trackback, hein, comme on dit. Il a calculé, c'était des matheux les gars. Hein. Le navigateur a négocié un retour. Manque de pont, ils ont manqué le retour. Ils ne sont pas repassés sur la même voie. Ils sont passés 200 km plus au nord. Et il a fini sa trajectoire sur la crête du Cheval Blanc. On est au mois de janvier. Vous imaginez le voyage dedans avec des femmes et des enfants. Là, j'ai les noms et les âges. Bon, on ne va pas les citer parce que ça va être un peu long. Mais c'était que des enfants en bas âge et même un bébé. L'avion, il n'est pas isolé. Il n'est pas pressurisé. Il vole à 2000 mètres, hein. Il n'est pas pressurisé, il y fait froid, il y a un bruit mais phénoménal. C'est une boîte de conserve avec des gros moteurs en étoile de chaque côté. Les sièges sont en toile, il n'y a pas de toilette. C'est du transport de troupes, quoi. C'est pour des parachutistes, c'est pas pour des femmes et des enfants. Et cet avion s'est perdu dans les montagnes et il a terminé là. Comment on peut mettre des femmes et des enfants dans un avion comme ça, des familles d'officiers, hein, Et ben c'est tout simplement qu'en 1948, les Américains ont toujours sont toujours attachés à ce que les corps des victimes de la guerre, des GIs, etc., soient rapatriés sur le sol américain. Alors il y avait deux possibilités. Soit un cimetière américain en Europe, auquel cas le territoire appartient aux États-Unis. C'est le cas du cimetière d'Omaha Beach. On est un territoire américain. Soit la famille pouvait faire rapatrier le corps. Donc, il y avait des cargos qu'on appelait les bateaux cercueils, qui étaient chargés de 3000 cercueils plombés, qui partaient de Hollande et qui allait jusqu'à New York et Boston. Et ils revenaient après en Europe. Mais comme ils ne voyageaient pas à vide, ils en profitaient pour faire acheminer ces familles avec femmes et enfants à bord. Alors, il faut savoir que le bateau qui avait transporté ces infortunées familles qui sont décédées là, au Cheval Blanc, il a dû faire un demi-tour en partant de Boston. Il a fait demi-tour pour aller porter secours à un autre cargo et ramener tout le monde à New York et repartir de New York. Donc déjà, ils ont fait 10 jours de mer en plus. Ils sont arrivés sur les côtes des Pays-Bas. De là, il n'y avait pas d'avion, parce qu'il y avait du gros mauvais temps, donc pour aller en Allemagne, à la base aérienne de Rheinmann. Donc ils y sont allés en train. Donc ils ont fait un voyage de 16 heures en train, après 15 jours de bateau, avec un bébé. Il n'y avait pas de Pampers, là. Hein. Les couches, il fallait les laver. Hein. Mmh. Bon. Et de là, ils partaient de Rheinmann en Allemagne pour aller en Italie. Le problème, c'est qu'il y avait des grosses tempêtes de neige sur les Alpes, donc ils ne pouvaient pas faire un saut de puce au-dessus des Alpes. Le pilote est passé par le couloir rhodanien, mais ça doublait le voyage. Ils ont fait un arrêt à la base d'Istres. Et le lendemain, ils sont repartis. Voilà. Et voilà ce qui est arrivé au Dakota, qui s'est crashé, lui, le 27 janvier 1948. Le 30 janvier 1948, le temps s'était levé. Les fameux B-17 dont on parlait tout à l'heure, qui étaient voués au secours en mer, sont partis chercher du côté de la Ciotat, en Méditerranée et tout. Des gens se sont aperçus du côté de Tartonne qu'il y avait quelque chose qui fumait noir sur les crêtes du Cheval Blanc. Au même moment, un avion piloté par le lieutenant Pope a survolé la zone du Cheval Blanc, a repéré et identifié le Dakota, puisqu'on voyait l'immatriculation sur l'empennage. Il a vu que malheureusement, il n'y avait pas de signe de survivant. Et il a fait des rotations tout autour. Au même moment, un des B-17 revient sur Istres et va se poser à Istres. Et on va lui dire, voilà, il y a 3 journalistes de Star and Stripe, le magazine de l'armée américaine, qui veulent aller faire des photos. Tu vas aller faire des photos, tu vas aller les transporter là-bas. Et puis il y a un pauvre gars qui se traîne là dans la base, les mains dans les poches, il est de repos, il dit « Oh, vous allez voler dans les Alpes, oh, je peux venir avec vous ?» Alors, allez, monte. Et donc, il est monté. Et ben voilà, il ne fallait pas. Il ne fallait pas qu'il monte dessus, là.
Donc, ils sont partis, 3 journalistes plus...
plus l'équipage, hein, pilote, copilote, mécanicien.
Voilà, et pourquoi ce crash, alors ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il a fait un premier passage sur la crête du Cheval Blanc où ils ont fait des photos. Et puis les journalistes lui ont dit « Est-ce que tu peux pas faire un deuxième passage, mais en volant plus bas ?» Alors le pilote, il a fait une erreur parce qu'il était extrêmement confiant dans leur matériel. C'était du matériel américain, on a 4000 chevaux à bord et tout, on n'a pas de bombe. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'il avait la chaloupe accrochée dessous. Et que ça augmente la traîne, donc ça augmente la vitesse de décrochage, et donc l'avion devient impilotable. Et donc il a fait une bêtise en plus, le nez de l'avion est en plexiglas, on y voit à travers, hein, c'est une verrière, et il a dit aux trois journalistes de monter dans la verrière, dans le nez de l'avion. Et il a demandé aux mécaniciennes de monter dans le poste de mitrailleur de queue, dit poste d'observation, pour faire contrepoids. Malheureusement, l'avion a piqué du nez, il a décroché. Le lieutenant Pope a hurlé dans sa radio « Redresse, redresse !» L'avion était irredressable. Il a percuté le Cheval Blanc et il est allé s'écraser juste au-dessus du village de Chanol. Un seul survivant, le sergent du beau nom de... Il y a un beau nom américain, lui. Sergent Angelo LaSalle, de Brooklyn, qui a été le seul survivant et qui a été sauvé sur place par un prisonnier de guerre allemand qui coupait du bois au-dessus de Chanol et qu'il l'a pris dans ses bras, qu'il l'a traîné contre la carlingue qui était chaude pour pas qu'il meure de froid et d'hypothermie, et qu'il lui a parlé en mauvais anglais et en allemand, qu'il lui a raconté que c'était un ancien pilote de la Luftwaffe qui autrefois s'était combattu, mais il lui a dit « maintenant je vais t'empêcher de mourir ».
Eh bien, une belle histoire.
Voilà, et c'est ces histoires-là voilà, que l'on raconte quand on cherche des épaves d'avion.
Joël Marteau, c'est bientôt l'heure de se quitter. C'est vrai que c'est passionnant. Et
Alors, il y a un petit truc sur lequel on va revenir mais très rapidement. C'est le crash de la 320 qui s'est produit dernièrement, en 2015. Je n'en parle pas. Le deuil n'est pas fait. Déjà, le cheval blanc, le double crash du cheval blanc, ça, on a eu l'occasion d'avoir une cérémonie avec des familles de victimes qui sont venues. Il y avait une grosse, grosse charge émotionnelle et c'était 60 ans plus tôt, le crash. Là, actuellement, c'est encore trop frais et je pense que toutes les démonstrations de pseudo-pillage, le travail un petit peu outrancier de certains médias. On n'aborde pas ce sujet-là pour le moment. Laissons le deuil se faire. Je vois régulièrement des familles de victimes de ce crash. Ce n'est pas le sujet. C'est pour ça qu'on n'en parle pas à cette émission, évidemment. Je pense qu'il y avait peut-être une attente de ce côté-là, mais non, il n'y en aura pas.
Joël Marteau, merci. On rappelle que vous cherchez un éditeur, que vous avez écrit donc un livre qui s'appelle
Épave d'avion en d'avion pays d'Innois.
En pays d'Innois, pardon. Et puis, il y a un site certainement où on pourra trouver vos coordonnées.
Oui, c'est Montagne Soleil Aventure. Vous tapez Montagne Soleil Aventure, vous allez tomber sur le site. Et justement, où je raconte, il y a des extraits du livre avec quelques photos.
D'accord. Je vous remercie. Cette émission sera en ligne aussi sur notre site fréquencemistral.com et le lien sera là. Merci.
Et merci Odile de ton accueil.
À bientôt. Au revoir.